Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 14h30 à Paris. Tout de suite, c'est Afrique Midi, présenté par Nicolas Brousse. Bonjour Nicolas.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Pour ses supporters africains aussi, cette fois Paris est vraiment magique. Le PSG, sacré champion d'Europe de football pour la première fois de son histoire, vainqueur hier soir 5-0 contre l'Inter Milan. Parmi les buteurs, Achraf Hakimi, qui a donc aussi fait vibrer le Maroc. Nous serons à Casablanca et le jeune Désiré Doué, dont le père est ivoirien. Cela fait réagir à Abidjan où nous attend l'un de nos correspondants. En RDC, on est sans nouvelles de l'opposant Matata Ponyo depuis la condamnation de l'ancien Premier ministre à 10 ans de travaux forcés le 20 mai dernier. Vous entendrez l'inquiétude de son parti. À suivre également les tensions entre le Niger et la Chine à propos du pétrole, première source d'exportation du pays. La polémique à Madagascar après la signature d'un protocole d'entente sur l'agriculture avec une entreprise israélienne. Et puis une deuxième opération de chirurgie reconstructrice réussie dans l'histoire du Burkina Faso et donc une nouvelle source d'espoir pour les patientes guéries du cancer du sein. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue, on tourne ensemble la première page.
C'est terminé, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions, il n'y aura pas de temps additionnel, 5-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. Paris tient sa première Ligue des Champions et rejoint Marseille.
Eh oui, Marseille a jamais les premiers, mais plus les seuls depuis hier soir. Il était 22h50, heure des studios d'RFI à Paris. Vous venez d'entendre Victor Missistrano, qui avec le service des sports vous a fait vivre la finale de la Ligue des Champions en direct. Résultat, quelques minutes plus tard, dans les rues de la capitale française, les supporters exultent au micro de Baptiste Coulon.
Ils nous ont régalé.
5-0, ça n'était jamais arrivé.
5-0,
hein.
Jamais. J'ai 25 ans, c'est la première fois que je vois la LDC à Paris. C'est incroyable.
Paris est magique ou pas ?
Paris est magique, mais tellement magique.
Paris est magique et comme c'est un certain Achraf Hakimi, le capitaine, qui a ouvert rapidement le score, cette victoire du PSG a été célébrée jusqu'à Casablanca. Les Marocains n'ont pas caché leur fierté de voir le lauréat 2025 du prix Marc-Vivien Fauré et RFI France 24 soulever la coupe avec son club. Reportage dans la capitale économique marocaine de François Hume Ferkataji.
Dima Mghrib, Dima PSG.
Vive le Maroc, vive le PSG. C'est un peu le résumé de la soirée à Casablanca. À la 12e minute du match, le nom d'Hakimi résonne dans ce café de la capitale économique. Jihad salue la performance de l'enfant du pays.
Puisque c'est un Marocain, bien sûr, on est fiers de lui. On est fiers de ce but. On aimerait bien qu'il gagne, qu'il remporte la Champions League.
La suite, on la connaît, large victoire de Paris et Hakimi, le Marocain né en Espagne, qui célèbre la victoire en se drapant des couleurs du Maroc.
Et Hakimi, ça reste une personne spéciale, ça reste quelqu'un qui a choisi le Maroc déjà, et ça fait plaisir, et on le respecte, on l'adore et on l'aime.
Au coup de sifflet final, les clients, pourtant pas tous supporters du PSG, laissent exploser leur joie. Pour Mehdi, Hakimi est une vitrine pour le Maroc à travers le monde.
Il a bien joué, surtout le long du match. Ça a été exceptionnel, cette finale.
Achraf Hakimi avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais sans jouer. Cette fois, il est l'un des artisans de la victoire du PSG.
Il a marqué même un but. Donc, pour un défenseur, pour qu'il marque un but en finale de Champions League, comme c'est un exploit.
Porté par un Hakimi victorieux, le Maroc espère désormais rafler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à domicile. François Hume Ferkataji, Casablanca, RFI.
Et parmi les Parisiens vainqueurs de cette Ligue des Champions, outre le capitaine, un autre joueur a fait encore un peu plus d'étincelles que les autres. Double buteur, passeur décisif, Désiré Doué, qui aura seulement 20 ans mercredi, a été nommé meilleur joueur de la finale face à l'Inter. Benoît Almeiras, vous êtes en direct d'Abidjan, où l'on salue la performance de l'attaquant, né en France de père ivoirien. Avec une pointe de regret, on va y revenir, mais donc Benoît, d'abord de la fierté en Côte d'Ivoire.
Oui, Nicolas, de la fierté, hein, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est le mot qui revient ici. À chaque fois, quand on rembobine les deux buts de Désiré Doué hier soir, 32 ans après la tête de Basiboli avec Marseille, c'est encore un Ivoirien qui fait gagner un club français, rigole ce sportif, qui rappelle les racines du père de l'attaquant, Mao Doué, issu de la communauté guérée de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Autre signe de fierté ivoirienne, cette vidéo de 2022 qui refait surface sur TikTok. On y voit Désiré Doué faire le logobi, la danse des gros bras d'Abidjan, alors qu'il fête sa victoire à l'Euro des moins de 17 ans avec l'équipe de France.
Benoît, c'est d'ailleurs ce choix de l'attaquant du PSG de jouer pour les Bleus qui suscite quelques regrets chez vous.
Oui, ce supporter du club parisien se lamente avec son talent. On voudrait qu'il joue pour les éléphants. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, Nicolas. On va tout faire pour donner à Désiré Doué l'envie de nous rejoindre, avait déclaré le président de la Fédération ivoirienne de foot l'an dernier. Pas suffisant puisque le surdoué a rejoint la sélection de Didier Deschamps cette année, et ce alors que son grand frère, Guéla Doué, porte le maillot orange des champions d'Afrique depuis un an, Nicolas.
Benoît Almeras, correspondant des RFI à Abidjan, grand amateur de football. Si vous êtes comme lui, vous pouvez revenir à loisir sur cette victoire historique du PSG sur RFI.fr, avec notamment le replay de l'édition spéciale proposée par l'équipe des RFI Matin. On en reparlera évidemment également dans Mondial Sport à 16h10, temps universel. Au Nigeria, la route s'est révélée encore meurtrière. Hier soir, 21 sportifs qui revenaient du Festival National des Sports sont morts dans l'accident de leur autocar qui effectuait un long trajet de nuit, 1000 km pour rentrer à Kano. La sécurité routière nigériane estime que la fatigue et la vitesse excessive pourraient être comme souvent la cause de ce drame. En 2024, le Nigeria a connu près de 10 000 accidents de la route coûtant la vie à plus de 5 400 personnes. En RDC, où est l'opposant Matata Ponyo, ancien Premier ministre et député? À 13h36, heure de Kinshasa. La question se pose depuis sa condamnation le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement des deniers publics lorsqu'il était au pouvoir. Il est toujours porté disparu selon son parti. Les précisions de notre correspondant Pascal Moulégoua.
Matata Ponyo n'est plus joignable ni au téléphone ni à son domicile. L'ancien Premier ministre s'est trouvé le week-end dernier à Kinshasa. Franklin Tshamala, le secrétaire général de son parti politique LGD, s'est dit inquiet.
Nous avons essayé voir les lieux carcéraux où probablement il pouvait se trouver. Il n'y est pas. Nous avons résolu de lancer cette alerte pour demander au pouvoir public de nous rendre compte. Nous sommes en contact avec sa famille qui est aussi inquiète. Nous craignons le pire. Nous voulons être fixés sur sa localisation. Ça nous suffirait. Et le pouvoir public est le mieux placé pour nous dire en ce moment où il serait.
Un membre du gouvernement et un responsable sécuritaire, rejoint samedi soir par RFI, ont qualifié les responsables du parti des Matata Ponyo des plaisantins, sous-entendu que ces politiques seraient au courant que leur leader cesserait d'exfiltrer de Kinshasa clandestinement. Réponse de Franklin Tshamala.
Certains ont dit qu'il était aux États-Unis. D'autres ont même prétendu qu'il était en Belgique et d'autres en France. Un communiqué d'un haut responsable politique du pays a même prétendu qu'il était localisable au pays et qu'il serait arrêté bientôt. On a vu ces images à bord des pirogues et d'autres images dans les milieux carcéraux. Et dans tout cela, rien ne t'avait parce qu'il n'est pas trouvable.
Dans le même temps, les partis de Matata Ponyo affirment que sa fille, qui voulait se rendre aux États-Unis, a été interdite des sorties du territoire vendredi soir. Son passeport a été confisqué par les services d'immigration. Pascal Moulégoua, Kinshasa. Ça et RFI.
Retour à Paris où l'emblématique place de la République avait des airs de petit Cameroun. Hier après-midi, l'opposant Maurice Kamto, déclaré deuxième à la dernière présidentielle de 2018, organisait un meeting à destination de la diaspora camerounaise pour lui demander son soutien en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Et vous y étiez, Amélie Tulé.
Cameroun 2025, changement, changement.
À cette diaspora camerounaise, Maurice Kamto promet de rouvrir les portes du pays.
Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux.
Il promet aussi de rétablir la binationalité, voire la plurinationalité, pour faire de la diaspora un levier de développement pour un Cameroun qu'il estime en état d'urgence.
Ce pays a besoin d'être sauvé, parce qu'il faut de l'eau potable.
2025 ne sera pas 2018. Quatre décennies de présidence Biya arrivent à terme. Maurice Kamto en est convaincu, mais il s'engage à traiter l'actuel chef de l'État avec respect.
Rien n'arrivera à Monsieur Biya et sa famille.
L'opposant balaie tout débat sur sa candidature, lui l'avocat de formation, ancien ministre de la Justice.
Il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle.
Dans la foule, des Camerounais installés en France, d'autres venus pour l'occasion de Belgique, du Luxembourg ou encore d'Allemagne.
Parce que lui, il est celui-là qui va nous permettre d'ouvrir les routes pour rentrer au Cameroun.
On en a marre de 43 ans de manipulation, de marginalisation, donc il faut bien que ça change.
Parce qu'on veut que le Cameroun ait la même place qu'il a eu au niveau du Conseil des Nations. On était des pays émergents, mais aujourd'hui, on a une chute libre.
À cette diaspora, Maurice Kamto demande un soutien financier, de voter pour lui, voire même d'aller au Cameroun en octobre, surveiller le scrutin.
Reportage d'Amélie Tulé. Au Niger, le général Tchani était hier soir interviewé par la télévision nationale. S'il a esquivé les questions sur les attaques djihadistes qui ont fait plus de 100 morts parmi les forces de sécurité ces derniers jours, le chef de la junte s'en est pris, selon ses termes, aux forces néocolonialistes comme la France, l'Union européenne et les États-Unis qui veulent, selon lui, déstabiliser le Niger. Le président de la transition a également eu des mots pour le Nigeria et le Bénin, accusés d'être des complices de la France. Et alors que l'ultimatum lancé à la CNPC, la compagnie pétrolière chinoise, vient d'expirer, le général Tchani est revenu également sur cette crise. Pour mémoire, courant mai, le ministère du pétrole nigérien ordonnait à la filiale Soraz de résilier les contrats de travail de ses expatriés en poste depuis plus de 4 ans. Le général nigérien estime en effet que la Chine et ses sociétés jouent un jeu trouble dans son pays. Le problème pour Niamey, c'est que ses techniciens chinois bien formés sont difficilement remplaçables et que le Niger est dépendant de la Chine qui reste son principal partenaire. Analyse de Benjamin Auger, il est chercheur spécialiste des questions pétrolières à l'IFRI.
La Chine peut attendre, la Chine a le temps, la junte n'a pas le temps. La grande différence entre la Chine et d'autres investisseurs, c'est que c'est des investissements globaux, c'est-à-dire qu'ils voient la totalité de leur coopération entre le Niger et eux, et ils peuvent se permettre d'avoir des crises, y compris des fermetures de raffineries s'il faut. L'acteur chinois dans le secteur pétrolier est actuellement irremplaçable. Donc c'est un bras de fer politique ce qui est en train de s'engager. C'est-à-dire que justement l'objectif c'est de faire en sorte que les Chinois payent davantage, fasse de nouveau des préfinancements, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent avant que l'argent soit dégagé par la vente d'hydrocarbures. Et l'objectif, c'est justement que la junte, qui a des difficultés à générer de l'argent par d'autres secteurs, fasse pression sur le seul acteur qui génère de l'argent, qui est donc la CNPC et le pétrole, en les menaçant justement de fermeture, qui est le seul moyen qu'ils ont sur eux pour essayer de les faire donner davantage de moyens financiers à la junte.
Benjamin Auger, chercheur à l'IFRI. Au Burkina Faso, l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou vient de réussir la deuxième chirurgie reconstructive du sein de l'histoire du pays. Walid Diallo, cette opération à succès a eu lieu dans le cadre de la troisième édition d'une campagne de chirurgie gratuite du cancer du sein à destination des femmes les plus vulnérables.
SD est la première patiente du CHU Yaldago Ouédraogo à bénéficier de cette reconstruction mammaire. 40 ans, mère de 3 enfants, son périple débute en 2020 lorsqu'elle découvre une boule dans son sein droit. Après des examens approfondis, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle subit des séances de chimiothérapie puis de radiothérapie avant une ablation du sein en 2021. Ce jeudi, elle a bénéficié d'une chirurgie réparatrice du sein droit. Tout s'est bien déroulé et la patiente va parfaitement bien, a déclaré le chirurgien Naizongo. C'est la deuxième fois qu'il réalise un tel procédé médical. Au mois d'octobre, son équipe a mené la première chirurgie reconstructive des seins du Burkina sur une autre femme à Léo, dans le sud du pays. L'opération consiste à prélever une partie de la peau du ventre de la patiente avec de la graisse et des vaisseaux pour ensuite la greffer au niveau du sein. SD devra subir une deuxième opération, cette fois pour restaurer son mamelon.
Avancée suivie par Walid Diallo. À Madagascar, 90 millions de dollars devraient être investis dans les cultures de riz, de maïs et de soja à travers 4 des 23 régions du pays. C'est l'objet du mémorandum signé cette semaine entre les autorités malgaches et l'entreprise israélienne Heller Group. Objectif affiché, aider les paysans à moderniser leurs pratiques pour que la grande île atteigne à terme la souveraineté alimentaire. Mais à Madagascar, l'annonce ne fait pas l'unanimité. Pour certains, ce partenariat n'a pas lieu d'être en pleine intensification de l'offensive israélienne à Gaza. D'autres redoutent le scénario d'une spoliation des terres, car ce projet en rappelle un autre qui avait alors fait beaucoup de remous avant d'être avorté. Confirmation avec sur place Pauline Le Troquier.
L'annonce a réveillé de douloureux souvenirs et avec eux une hantise, voire des terres malgaches cédées aux étrangers. En 2008, la presse internationale révèle un accord conclu entre l'État et la société sud-coréenne Daewoo pour l'agriculture. Marc Ravalmanan, président de l'époque, est alors accusé de vouloir vendre le pays aux étrangers. La contestation du projet est menée par l'actuel chef de l'État, Ange Radzoel, alors opposant, et participera à la chute de Marc Ravalmanan quelques mois plus tard. Ce projet israélien agite aujourd'hui les mêmes craintes qu'il y a 15 ans, comme l'explique Serge Zafarian. Joseph Mahouv, analyste politique.
L'opinion publique s'interroge quand même sur cette histoire. Mais qu'est-ce que c'est ce double discours ? Ils ne comprennent pas que ces gens qui ont été contre le projet d'AEO sont pour aujourd'hui le projet israélien. Le seul capital qui reste à la population, c'est la terre. Donc l'accès à la terre est vraiment un sujet très délicat ici.
La secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire n'a, à ce stade, pas répondu aux sollicitations de RFI sur la nature du futur contrat. Il ne s'agit que d'un mémorandum d'entente qui n'a aucune valeur juridique, justifie Taïnav Razanamaef, et d'ajouter « Je tiens à rassurer la population, les terres resteront malgaches ». Au-delà de l'enjeu foncier, l'annonce indigne une partie de l'opinion publique à l'heure où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'offensive israélienne à Gaza. Pauline Troquet, Antananarive, RFI.
À Madagascar, il est 15h45, 12h45 TU.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Dimanche 1er juin, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition sonore, l'Afrique en marche à la découverte d'un des rares producteurs de poivre en Côte d'Ivoire, pays plus connu pour son cacao. Les chemins d'écriture rendront hommage à l'auteur kényan disparu mercredi dernier, Ngugi wa Thiong'o. Il aura marqué d'une empreinte indélébile le champ littéraire africain. Et puis 100% création, éco-responsable avec un créateur de bijoux qui recycle le carbone des voiliers de course. Une innovation liée à la transmission des valeurs de la mer. Une chronique relevée me souffle cette semaine son auteur Frédéric Gara, parti à la rencontre d'un producteur de poivre en Côte d'Ivoire. Du poivre, oui, pour Jean-Eudes Kakou, plutôt que du cacao ou de l'anacarde, comme beaucoup dans le pays. Et pas n'importe lequel, le poivre de Tiassalé, qui est un produit bio et d'excellence pour lequel Jean-Eudes Kakou voudrait un jour obtenir une certification IGP, comme un autre poivre, celui du Penja au Cameroun. C'est donc l'Afrique en marche avec Frédéric Gara.
L'Afrique en marche.
Ce n'est pas dans ses vergers de Tiassalé, mais dans la demeure familiale à Abidjan Cocody que Jean-Eudes Kakou vous donne rendez-vous. Et d'ailleurs, pendant qu'il livre quelques kilos de poivre en ville, c'est sa maman, Louise, qui vous accueille au jardin et vous raconte l'origine de la marque KPC.
Si vous voulez le logo KPC, KPC qui est l'initiale de mon mari.
Et KPC.
KPC Kakou Pierre Claver. Et là, tout le temps, je lui dis vraiment merci. Ça permet de ne pas oublier mon mari, de le faire revivre. Et je suis très contente qu'il ait repris cette activité. Vraiment, il s'en sort très bien.
Car l'histoire de KPC, c'est une histoire de famille. Un père décédé il y a quelques années, au magistrat, passionné d'agriculture, et un fils qui reprend ses champs et tente une expérience un peu folle. Celle de faire pousser du poivre au pays du cacao et de l'anacarde. Paris osé et réussi, puisque son poivre bio est considéré comme l'un des meilleurs de Côte d'Ivoire. Jean-Eudes Kakou.
Moi, mon défi, ça a été de dire que je veux vivre de cette agriculture-là. Donc, on ne peut pas vivre de l'agriculture sans transformation. Aujourd'hui, vendre donc, juste le fruit de l'agriculture n'est pas du tout rentable. On a vu qu'on pouvait beaucoup transformer le poivre. Il fallait juste revoir un peu le processus, c'est-à-dire, nous, avant, on travaillait beaucoup les produits chimiques qu'on a arrêtés depuis 11 ans maintenant aujourd'hui. On produit beaucoup moins, mais on produit de meilleure qualité. Ce qui m'a interpellé, c'est que ça n'avait pas de sens. Chaque 2 mois, il fallait acheter de nouveaux produits chimiques. Donc du coup, je me suis dit, ce n'est pas la solution d'un produit chimique. D'accord, les produits chimiques, ça pourrit la terre. D'accord, il y a aussi plusieurs aspects, c'est l'aspect humain. Nous travaillons avec des personnes parfois qui ont une ancienneté de 20 ans. Et c'est un peu plus que des travailleurs aujourd'hui, ils font partie de la famille aujourd'hui. C'est eux qui traitent, on ne va pas les rendre malades. On tend plutôt vers des poivres d'origine qui sont produits avec beaucoup, beaucoup moins de produits chimiques, sinon voire même sans produits chimiques. C'est vraiment cette tendance à continuer.
Une tendance qui plaît sur les tables abidjanaises. Bruno Oustrick est chef du restaurant de l'hôtel Kiaba au quartier Plateau.
Alors moi, j'ai connu son poivre il y a à peu près 3 ans. C'est un super produit. Ouais, vraiment un très, très bon produit qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un produit bio. Il a une diversité sur le noir, le poivre noir, le blanc, le rouge et le poivre frais. Wow, avec des saveurs, mais incroyable. Je suis tombé amoureux de son poivre. C'est un petit peu le but du jeu, quoi. C'est utiliser les produits locaux au maximum. Après, c'est en pleine expansion. On utilisait beaucoup de produits importés auparavant et on essaie de minimiser tout ça parce que à l'importation, ça coûte quand même très très cher.
Innover, structurer, rechercher et labelliser, Jean-Eudes Kakou, avec son poivre de Tiassalé, entend bien parvenir à l'excellence, un peu à l'image du poivre camerounais de Penja, qui a obtenu une IGP, une indication géographique protégée.
Cameroun est un exemple pour nous. L'IGP, c'est un aboutissement pour nous, on veut vraiment arriver à ça. Je pense qu'on est plutôt bien parti, et qu'on est quand même les premiers en Côte d'Ivoire à avoir tenter cette expérience de culture de poivre. Chaque année, nous augmentons nos volumes. Mais ce que nous faisons beaucoup plus, c'est pour motiver d'autres producteurs à planter du poivre. Une seule ligne de rondelle ne peut pas faire le printemps. On ne peut pas tout mettre autour de nous. On veut vraiment que Tiersalais soit une zone productrice de poivre.
Obtenir cette IGP marquerait l'excellence du produit, mais aussi la garantie de revenus. Delphine Marie-Vivien est chercheure spécialisée en propriété intellectuelle au CIRAD.
Le grand bénéfice de cette démarche-là, c'est vraiment sa dimension collective. Comme vous êtes sur un nom géographique, vous êtes forcément sur un produit qui est réputé du fait d'un ensemble de producteurs depuis plusieurs générations. Et avec l'idée derrière, effectivement, d'avoir la reconnaissance de la qualité spécifique grâce à l'usage exclusif du nom et de ce fait-là, du coup, des revenus améliorés. En tout cas, c'est ce qu'on a vu pour le poivre de Panja, c'est ce qu'on voit pour beaucoup d'appellations d'origine indication géographique.
Il y a 10 ans, en décrochant le label IGP, le poivre du Panja au Cameroun a vu sa valeur tripler sur le marché et la surface de culture quintuplée.
Chronique L'Afrique en marche, signée Frédéric Gara, à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Je le souligne d'autant plus que Frédéric est le rédacteur en chef de cette édition d'Afrique Midi aujourd'hui. À 12h, bientôt 51, temps universel, nos dernières infos du monde avec pour l'Ukraine un espoir qui renaît timidement. Kiev participera demain au pourparlers avec la Russie sous médiation turque à Istanbul, annonce il y a quelques minutes du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pas d'espoir pour Gaza en marge d'une opération de distribution alimentaire, au moins 31 morts, 176 blessés ce dimanche dans le territoire palestinien suite à des tirs israéliens selon la défense civile. L'espoir de trêve hier s'est déjà envolé, la réponse du Hamas étant jugée inacceptable par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient. Sur les chemins d'écriture cette semaine, une Afrique littéraire en deuil avec la disparition le 28 mai dernier du Kenyan Ngugi wa Thiong'o. Romancier, homme de théâtre, essayiste, il est l'auteur d'une œuvre protéiforme qui s'inspire des mythes et des légendes de son pays, mais aussi de son destin politique depuis l'occupation coloniale jusqu'à nos jours. À l'occasion de la mort de cet auteur immense, nous rediffusons les deux chroniques de 2022 produites par Tiertankar Chanda lors de la parution en traduction française du premier tome de ses mémoires.
Oh oui, je suis vraiment très heureux. Je me réjouis d'avoir cette possibilité de renouer avec mes lecteurs francophones grâce à la publication de Rêver en temps de guerre, le premier tome de mes mémoires. Ce processus a réellement commencé avec le volume d'essais « Décoloniser l'esprit » paru il y a quelques années.
And also through the previous text, through decolonizing the mind.
La voix que l'on vient d'écouter est celle de Ngugi wa Thiong'o, géant des lettres africaines contemporaines. C'est une voix rare sur les ondes françaises. Ngugi est l'auteur d'une œuvre considérable partagée entre romans, nouvelles, essais et pièces de théâtre. Né en 1938, il vit aux États-Unis depuis 4 décennies. Dans les années 1980, il dut fuir son pays où sa critique de la classe dirigeante kényane l'avait conduit en prison. Écrivain engagé, le Kenyan explore, à travers son œuvre, les méfaits de la politique néocoloniale Ngugi wa Thiong'o.
Je suis engagé dans le sens où je milite pour l'émancipation économique des classes laborieuses. Issu moi-même d'un milieu paysan, j'ai travaillé jeune garçon dans les champs de pierrettes. Mes frères et mes sœurs, eux, travaillaient dans des plantations de thé appartenant à des colons européens. C'est donc tout naturellement que je me suis intéressé à la question de la responsabilisation économique et sociale des sections marginalisées de nos sociétés. Pour moi, c'est la seule voie vers un monde plus juste.
We can have a more just world.
Traduite en français de façon parcellaire, l'œuvre de Ngugi wa Thiong'o est encore trop peu connue du grand public francophone. La parution de la version française du premier tome de ses mémoires, Rêver en temps de guerre, promet d'être une nouvelle étape dans la découverte de l'univers dissident de cet auteur. L'ouvrage fait partie d'une série de 3 volumes autobiographiques que Ngugi a consacrés aux 26 premières années de sa vie. L'opus s'ouvre sur la famille polygame de l'auteur. L'écrivain vieillissant n'a rien oublié de la concession familiale répartie entre le père et ses 4 épouses et les 24 enfants du patriarche. Le titre « Rêver en temps de guerre » fait référence aux turbulences qui ont marqué les années d'enfance et d'adolescence de l'auteur dans le Kenya colonisé. Son pays est successivement secoué par la Seconde Guerre mondiale, puis la rébellion Mao Mao et la brutale répression de cette résistance anticoloniale par l'administration britannique. La guerre est omniprésente dans ses pages, elle est la toile de fond de l'enfance, elle est familiale, sociale et surtout politique avec la domination coloniale qui spolia les Kenyans de leur terre, de leur Dieu, et de leur langue. Tout n'est pas perdu pour autant avec l'émergence de grandes figures nationalistes comme Jomo Kenyatta. Quelques-unes des pages les plus éloquentes du récit d'enfance de Gugi sont consacrées à la fascination qu'exerce ce leader historique sur son peuple.
Les gens aujourd'hui n'ont aucune idée de ce que représentait Jomo Kenyatta pour nous lorsque nous étions jeunes. Il faisait figure de géant. Il était pour notre génération plus grand que Mandela. Je suivais consciencieusement dans la presse les nouvelles de son procès. Paradoxalement, quelques années plus tard, c'est le même Kenyatta qui me fera enfermer dans un pénitencier sous haute sécurité. Mais pendant toute mon enfance et adolescence, il était mon héros.
Je suis fondamentalement un conteur, un Madir Gugi Wa Thiong'o. C'est en effet un conteur qu'il convoque ses années d'enfance, restituant avec brio l'atmosphère des veillées traditionnelles et l'univers magique de l'école qui le sauvera de la tourmente de la guerre. Comment son rêve de prendre son destin en main, tout en gardant à l'esprit les fractures de l'ordre traditionnel qu'il a vu naître, a fait de Gugi cet immense écrivain qu'il est devenu. Ce sera le sujet la semaine prochaine de la seconde partie de cette chronique.
Un hommage signé Tirthankar Chanda pour Gugi Wa Thiong'o, à retrouver donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. La chronique s'intitule « Les chemins d'écriture ». 100% création à l'heure océanique. La France et le Costa Rica co-organisent la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle se tiendra à Nice du 9 au 13 juin prochain. RFI sera présente et d'ores et déjà, Maria Afonso vous propose de découvrir le parcours engagé de Jolan Trecherel, un entrepreneur breton passionné, fondateur de Carbone, des bijoux issus des voiliers de course au large. Son histoire incarne l'innovation dans l'éco-responsabilité.
À la base, je suis bureau d'études, donc technique, dessiner en 3D, faire des plans. J'ai toujours voulu lier l'entrepreneuriat au sport.
Jolan Trecherel, fondateur de Carbone, une marque de bijoux avec du carbone recyclé.
Ce que j'ai appris récemment par ma mère qui fait des cours de breton, c'est que carbone avec un K et sans le E, ça veut dire carbone en breton.
Né à Quimper, Jolan Trecherel a beaucoup voyagé en Europe en tant que sportif de haut niveau en voile. Il a suivi des études d'architecte naval spécialisé en matériaux composites. Il a exercé son métier en Nouvelle-Zélande, puis à son retour en France, il travaille 10 ans en bureau d'études avant de lancer en parallèle son projet Carbone. Une démarche innovante de récupération et de valorisation des chutes de carbone provenant des voiliers de course, notamment ceux ayant participé au Vendée Globe. Carbone voit le jour en 2014. Jolan Trecherel, toujours architecte naval, fait évoluer progressivement ce projet jusqu'à la création de la marque en 2022, développée en Bretagne, près de l'océan.
On a construit vraiment notre écosystème local, principalement en Bretagne. On a aussi des partenaires d'écuries de course au large, donc françaises et internationales. La première chute, c'est une toute petite chute du bateau de Vincent Rioux, il y a très longtemps. Et petit à petit, on a développé des projets avec Sébastien Simon, avec Boris Herrmann, donc le skipper allemand, qui a été notre premier partenaire sur le long terme, parce qu'on travaille toujours avec eux, des chutes de fabrication du bateau, mais aussi des pièces qui ont pu casser en mer. Donc c'est à partir de là que la marque s'est fait connaître aussi dans le milieu de la course au large. On a travaillé avec des trimarans qui font le tour du monde, d'autres partenaires français en course au large. Et dernièrement, on travaille avec des moins d'écuries, mais des écuries plus prestigieuses sur des projets beaucoup plus haut de gamme.
En s'inspirant de la nature océanique, l'approche de Jolan Trecherel va au-delà du simple recyclage. Elle témoigne de l'importance de prolonger la vie des matériaux, de respecter la mer et de valoriser l'histoire humaine et sportive autour d'une performance.
En comparaison de deux bijoux identiques, la personne va choisir la pièce qui a une histoire, qui a couru à travers les océans. Et c'est vraiment cette histoire qui plaît, qui attire les sponsors, qui attire les marques, les écuries, parce qu'on sait sublimer et prolonger l'histoire. On sait combiner les deux.
Retrouvez l'univers de Jolan Trecherel sur RFI.fr, chronique 100% création, et la version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Chronique de Maria Afonso, fin d'Afrique Midi, mise en ligne par Mickaël Goncalves, rédaction chez Frédéric Gara, avec Pierre Vallée. À tout de suite.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Comment arrêter de fumer et pourquoi est-il important de se faire aider?
Mardi.
Alimentation, sport, hydratation, on parle de la santé sans ordonnance.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce lundi sur RFI.
Comment Camille Flammarion nous a appris à regarder le ciel?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Astronome visionnaire, formidable passeur de science et de merveilles célestes, Camille Flammarion est célébrée en cette année centenaire de sa disparition. Regard croisé sur les intuitions de l'auteur de La pluralité des mondes et de l'astronomie populaire.
Autour de la question, demain à 14h10 TU sur RFI.